Comme cela nous a été rappelé par notre cher chanoine Olivier Le Jariel, nous entrons donc dans ce que nous appelons communément le temps ordinaire. Ce qui signifie que jour après jour, nous sommes invités avec la liturgie de l'Église, avec la grâce de Dieu, à sanctifier chacune de nos journées. Rien en apparence ne doit, ne peut les distinguer. Simplement, c'est notre capacité à accueillir la sainteté de Dieu qui est en jeu. Et la liturgie d'aujourd'hui nous permet de rappeler les fondamentaux de notre foi. Premièrement, il est question de notre adhésion au Christ. Deuxièmement, cette foi au Christ, nous avons à la vivre en Église. Et d'une certaine façon, les textes de la liturgie de ce dimanche sont comme un condensé, un résumé de la foi chrétienne. Alors nous commencerons notre méditation avec l'évangile de Jean. Nous le savons, ce que nous appelons habituellement le quatrième évangile commence par une préface magistrale, une sorte d'hymne célébrant dans un paysage intemporel l'étreinte de l'éternité de Dieu avec l'humanité. Et Jean n'a pas le souci de Matthieu ou de Luc qui, par de savantes généalogies, rattachent Jésus à ses ancêtres pour fonder la lignée messianique. Avec son évangile, Jean, d'une certaine façon, nous conduit tout droit au cœur du mystère. Et la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, prend directement corps en Jésus. Souvenons-nous, le prologue de Jean est toujours proclamé le jour de Noël. Et il nous est rappelé que Jésus, c'est le Verbe, c'est la parole vivante de Dieu. Et du reste, c'est toujours ce que nous acclamons, et c'est ce que nous venons de faire, après la proclamation de l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans le passage évangélique de ce jour, Jean-Baptiste reconnaît l'envoyé de Dieu et le désigne aux autres. Magnifique ouverture de notre année liturgique, du temps ordinaire de notre année liturgique. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons bien que ce que nous venons d'entendre, c'est le début de la vie publique de Jésus. Tout commence ce jour-là, au bord du Jourdain, à Béthania. Tous ceux et celles qui ont eu la chance, la grâce d'aller en pèlerinage en Terre Sainte se souviennent de ces lieux où le Très-Haut se fait le Très-Bas, au plus bas de la terre, pour nous rejoindre, nous relever, nous sauver. Et ce que nous avons ce matin, c'est une rencontre étonnante entre l'annonceur et l'annoncé. L'annonceur, c'est le Baptiste. Il sort du désert pour lancer avec force sa parole. Et nous voyons bien que dans la personne de Jean le Baptiste, c'est toute la lignée prophétique qui semble signifier, manifester. Jean le Baptiste, c'est tout à la fois Amos le Bouvier, devenu prédicateur, c'est-à-dire quelqu'un dont ce n'était pas le charisme initial, mais voici que Dieu lui en donne le talent. Et de même, il peut être aussi Jérémie, le prêtre proscrit, devenu mime de Dieu. Car dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons le geste et le signe. En effet, Jean parle et montre du doigt, « Voici l'agneau de Dieu ». Et comment ne pas être ému en pensant que ces paroles prononcées à ses disciples, qui vont devenir du reste les disciples de Jésus, que ces paroles dites à ses disciples, nous les entendons à chacune de nos Eucharisties. Juste après la fraction du pain, avant la communion, le prêtre reprend les paroles mêmes du Baptiste. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors d'une certaine façon, avec cette séquence, c'est un peu tout l'Ancien Testament qui se clôt. Pourquoi ? Parce que désormais, la terre promise se trouve en Jésus. C'est l'ancien responsable de l'école biblique de Jérusalem qui est devenu le cardinal archevêque de Milan, le cardinal Martini, qui avait cette très belle formule. La terre de l'Alliance se concrétise dans le règne du Christ qui s'étend très au-delà de toutes les frontières. Et nous voyons bien la raison pour laquelle l'Église a souhaité que ce soit ce dimanche que nous ayons cette grande journée de prière, journée mondiale pour le migrant et le réfugié. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de frontières. Et la dimension ecclésiale est très importante dans la seconde lecture. Donc nous avons l'adhésion au Christ et nous voyons maintenant se déployer la nécessité de vivre notre attachement à la personne du Christ en communauté. Ce n'est pas simplement une adhésion personnelle, mais c'est un geste, un acte ecclésial. Le mot « église » est apparu très rapidement. En grec, cela signifie « l'assemblée ». Souvenons-nous toujours qu'un chrétien qui s'isole, c'est un chrétien qui s'étiole. Il ne peut y avoir d'authentique vie chrétienne que vécue en communauté, ressourcée dans la liturgie dominicale, avec la proclamation de la parole de Dieu et le partage du pain eucharistique. Et nous voyons bien que l'Église du Seigneur, c'est le rassemblement volontaire de toutes celles et ceux que le Christ transforme en son corps. Nous entendrons tout à l'heure dans la préface le rappel de ce qui a été dit au moment du Concile Vatican II. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le temple de l'Esprit. Et nous devons, en nous ressourçant dans les sacrements de l'Église, nous donner les moyens d'être à la fois un peuple, un corps, un temple. Alors après, on s'interrogera. Nous adhérons à la personne du Christ, nous vivons en Église, mais quelle est notre mission? Eh bien là, précisément, nous devons reprendre la première lecture, extraite du livre d'Isaïe. Qu'avons-nous entendu? Tu es mon serviteur, en toi je me glorifierai. Je vais venir de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église doit inlassablement se donner les moyens de faire résonner jusqu'aux extrémités de la terre la parole de Dieu. Et nous-mêmes, là où nous sommes, nous avons humblement mais résolument à faire entendre la parole de Dieu. Et c'est tout le sens des différentes démarches que nous vivons. Démarches diocésaines avec Covadis, petites équipes qui se retrouvent pour partager la parole de Dieu. Et puis bien entendu, le parcours Alpha que nous avons vécu à deux reprises dans notre ensemble paroissial, essayer de proposer à ceux et celles qui sont aux marges de l'Église l'expérience du Christ ressuscité. Alors c'est l'ultime question, comment être fidèle à cette mission de l'annonce de l'Évangile? Eh bien nous voyons qu'il y a un enjeu de cohérence. En effet, il nous faut être des hommes et des femmes qui sont capables de transmettre en étant cohérents. En effet, ça n'est pas d'abord un discours, ça n'est pas un cours de théologie dont il est question, mais c'est la joie de croire en quelqu'un qui change notre vie. Et pour pouvoir l'annoncer de façon crédible, il faut, bien entendu, que notre vie soit à la hauteur de ce que nous disons. Et c'est ce qu'exprimait magnifiquement le cardinal Vanoy lorsqu'il disait « Nous ne pouvons nous prétendre chrétiens que si nous adhérons vraiment au Christ. En effet, nous ne devons pas nous préoccuper seulement de nos propres intérêts. Nous ne pouvons pas nous préoccuper uniquement du salut de notre âme. Nous devons avoir, à l'image du Christ, un cœur ouvert à tous les hommes. Et nous comprenons, frères et sœurs, que la mission de l'Église, c'est l'appel à la sainteté. Et nous retrouvons un élément essentiel de ce qui a été dit par le Baptiste. Il rappelait que sa mission à lui, c'était de baptiser dans l'eau et que celui qui venait, le Christ, baptisait lui dans l'Esprit Saint. Ce qui veut dire, frères et sœurs, l'eau est l'élément naturel, par exemple, pour que les poissons puissent vivre, et bien pour que les chrétiens puissent vivre authentiquement. Il faut qu'ils puissent baigner dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'élément naturel du chrétien. Puisse cette Eucharistie nous donner la grâce d'aller toujours plus avant, de sainteté en sainteté, et cela tant que la vie nous est laissée, car comme le rappelle inlassablement le pape François, la vie chrétienne, c'est une marche à la rencontre de celui qui vient.